un podcast France Culture.
Le Nigeria pleure l'une de ses plus grandes stars, John Okeifor, alias Mr. Ibu, était une figure de Nollywood, le cinéma nigérian, devenu en quelques décennies le deuxième producteur de films au monde. Mr. Ibu était l'un des acteurs les mieux payés de cette industrie, né dans les rues de Lagos, la vibrillonnante capitale économique du pays à la fin des années 80. C'est un cinéma qui se flatte de produire plus de films que Bollywood, environ 2500 par an, mais qui peine à bénéficier à ses auteurs. Nous allons parler du modèle économique du cinéma nigérian en compagnie de Françoise Ugochukwu, avec nous à distance, spécialiste d'études africaines au département de développement de la Open University au Royaume-Uni et ancienne professeure à l'université Nsukka au Nigeria, autrice de cet ouvrage « Nollywood, le cinéma nigérian 1991-2021 » paru chez L'Harmattan en 2022. Également avec nous en duplex de Bordeaux, Alessandro Jedlowski, maître de conférences en sociologie politique et études africaines à Sciences Po Bordeaux. Une émission préparée par Diane Devancet, Léa Sabourin, Anouk Milliot, Tina Young, Léopold Thiévan et Inès Gender.
You must not tell papa what I am about to tell you. My husband is dead, along with two others. Michael always had that gun within reach. Part of his American cowboy fantasy.
Your name is Anyanwu Opara.
Anya, it's Nigerian. Michael didn't expect it to be taken away from him that night, and they didn't expect me to fight back so hard. But the police think I am to blame. And I am alive.
Bonjour Alessandro Jedlowski.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'était un extrait du tout début d'IG The Journey, un film de Chinese Anayene sorti en 2010. C'est un long métrage emblématique du cinéma de Nollywood, Alessandro Jedlowski.
C'est un film qui à plein d'égards a été très important, puisque c'est un film qui, parmi les premiers, a marqué, disons, le retour de Nollywood au cinéma. Il y avait déjà eu de films qui étaient passés dans les salles à nouveau. On reviendra sur la question des salles au Nigeria, mais IJ a été un des tout premiers films à avoir des résultats de box-office très importants, et donc à envoyer un signal important aux producteurs de Nollywood, comme quoi c'était le moment de réinvestir les salles, de remonter, disons, le budget de leur production pour viser des circuits de circulation plus formalisés. Donc bien sûr les salles, mais aussi par la suite les plateformes et aussi la circulation internationale auprès des diasporas.
Pourquoi l'industrie du cinéma nigérian voit-elle le jour dans les années 80? Que se passe-t-il à ce moment-là, Alessandro Jedlowski? Le pays est plongé dans une grave crise économique?
Tout à fait. C'est une période très importante dans l'histoire du Nigeria, aussi bien qu'une période vraiment dure, à plein d'égards triste. C'est-à-dire que on sort d'une période des années 70 qui avait vu le Nigeria se développer de manière très importante, en suivant le boom des prix du pétrole, le pétrole qui est, disons, la source primaire des revenus du pays. Donc les années 70 ont été une période de prospérité, même si avec plein d'épisodes de corruption et de détournement d'argent, donc, mais en tout cas une période où il se forme au Nigeria aux années 70 une classe moyenne importante, il y a un développement très très significatif des infrastructures et ainsi de suite. Et cette période est suivie de manière brutale aux années 80 par une période de crise économique liée à ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, c'est-à-dire que les grandes dépenses des années 70 ont été suivies aux années 80 par une chute du prix du pétrole et donc un endettement exponentiel de l'État nigérien qui a amené l'État à devoir demander l'aide des institutions internationales et donc avec l'arrivée de ces programmes d'ajustement structurel, qu'on les connaît bien, ils ont été appliqués dans plein d'autres pays du Sud, mais ils ont forcé le Nigeria à réduire énormément les investissements dans le secteur public, dont sûrement le secteur de la culture, et mais aussi, disons, un retrait de l'État qui a provoqué une crise de la sécurité à l'échelle nationale, la sécurité urbaine. Donc, dans cette époque-là, les gens ne peuvent plus trop aller au cinéma, aller au théâtre, ce qui était les formes de divertissement principales, et même les artistes qui travaillaient chez les compagnies de théâtre locales, Yoruba Traveling Theatre, c'est un phénomène très important au Nigeria aux années 70-80. Donc, ils peuvent plus trop travailler dans ces compagnies qui n'arrivent plus à circuler ou travailler dans les programmes produits par la télévision nationale dont les budgets sont coupés drastiquement à cette époque.
Oui, il y a vraiment donc, une implosion du secteur culturel dans le sillage de ce programme d'austérité qui est mis en place avec de nombreux professionnels de la télévision qui se retrouvent sans emploi, Alessandro Jedlowski.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il y a une contingence importante. C'est une époque d'innovation technologique. Les années 70-80 voient l'explosion globale de l'utilisation des technologies analogiques, la vidéocassette, et ainsi de suite, le magnétoscope. Donc, ces techniciens et ces acteurs, disons, du monde de la culture et des cultures visuelles s'approprient de cette technologie. Et autre figure fondamentale de cette époque, c'est celle des, disons, marchands d'électronique, ce qu'on appelle au Nigeria les marketers, c'est des vendeurs justement de ces technologies-là qui se sont emparés très vite du commerce de la piraterie, donc ils importent et ils font circuler au Nigeria les vidéocassettes de films piratés, les blockbusters d'Hollywood ou de Bollywood, et c'est eux qui ont l'intuition vers la fin des années 80 de essayer de mettre sur ces vidéocassettes aussi de contenu nigérian en exploitant la présence en fait d'acteurs, vedettes qui n'ont plus vraiment de travail et des techniciens bien sûr de la télévision également en difficulté, et du coup ils commencent à produire des films qui sont dans un format qui est à cheval entre celui des séries télé et des films. C'est des films qui font souvent 4 heures ou 5 heures coupés en épisodes. Ils les mettent sous les vidéocassettes et il les distribue directement sous les marchés, dans les marchés, disons, des grandes villes nigérianes.
Et oui, c'est parce qu'il y a un marché, il y a un public, pardon, pour ce marché de la VHS, Alessandro Jedlowski, puisqu'il faut peut-être rappeler qu'en raison du boom pétrolier, il y a une classe moyenne qui a émergé au Nigeria dans ces années-là.
Exactement. C'est ça qui est aussi une particularité du Nigeria aux années 80-90, c'est-à-dire que le magnétoscope ou la télévision sont présentes comme technologie dans beaucoup de foyers, chose qui n'est pas égale dans d'autres pays. Moi, j'ai travaillé aussi en Éthiopie, par exemple, et aux années 80, la situation est très différente. On aurait pu mettre sur le marché des vidéocassettes de films locaux sans avoir ce succès. Au Nigeria, il y a un public qui est intéressé à ces produits et qui peut se permettre de les acheter. Et puis, bien sûr, il y a parallèlement à ça aussi l'émergence d'un phénomène qui est spécifique à l'Afrique subsaharienne à certains égards, qui est celui des vidéoclubs, donc de lieux de visionnage collectif assez informel où on branche une télé à un générateur électrique à essence, et donc c'est des petites salles de cinéma de 40-50 places avec un écran finalement assez petit, mais qui est suffisant à attirer, disons, un public local. Le prix d'entrée est extrêmement bas, donc ça permet même aux gens qui n'ont pas chez eux les possibilités de visionner ces films, d'avoir un lieu dans le quartier pour aller voir les films. Et puis, il y a un public captif, en quelque sorte, fin années 80-90, il y a un taux de chômage très très haut dans les grandes villes nigérianes, et du coup, il y a pas mal de jeunes qui se baladent dans la ville sans trop savoir quoi faire, en quelque sorte. Il y a un temps libre et un temps de loisir un petit peu obligé, en quelque sorte. Donc, ces salles fonctionnent toute la journée et des gens s'arrêtent, regardent les films au fil des heures. Ces salles sont souvent à côté des arrêts des bus, des marchés, tout ça. Donc, c'est les gens rentrent, sortent. Donc, c'est un visionnage aussi souvent fragmentaire, mais qui contribue à rendre en Hollywood le fil rouge, en fait, de la culture populaire nigériane à partir de ces années-là.
Au début des années 90, ce marché était dédié aux appareils électroniques. On y trouvait de tout. Des radios, des climatiseurs, des frigos, etc. Ici, c'était vraiment l'effervescence. Rappelez-vous qu'on vivait une période de dictature militaire. Ce n'était pas une démocratie. Il y avait beaucoup de tensions dans le pays. Alors les gens trouvaient une bouffée de liberté en regardant ces films. Les familles trouvaient du réconfort, du divertissement, des moments de détente devant les productions de Nollywood. Ils s'asseyaient dans leur salon et ils pouvaient regarder 10 ou 12 films par jour. Et ils en voulaient toujours plus. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est rendu compte que c'était un très bon business. Même les coiffeurs ont abandonné leur salon pour rejoindre le mouvement et devenir producteurs de films. Certains réalisaient des films en 2 jours. Ils écrivaient l'histoire et la filmaient aussi vite. Pour d'autres, en 5 jours, c'était dans la boîte. Et c'est devenu ce qu'on appelle le pa-pa-pa business. Ça veut dire que la plupart du temps, on arrivait et on filmait direct, en intérieur, des scènes sans éclairage dignes de ce nom. Et on a baissé les standards de la réalisation de films.
Le chef décorateur Pat Nebo, dans le documentaire d'Arte de 2024, avec Nollywood, le Nigeria, fait son cinéma. Bonjour Françoise Ogochukwu.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a commencé à parler avec Alessandro Jedlowski des origines de ce cinéma nigérian. Il y a véritablement une folle effervescence autour de cette industrie cinématographique naissante qui s'empare des rues de Lagos au sud du pays dans les années 90.
Oui, mais c'est pas seulement à Lagos. Moi, j'étais pas à Lagos. À l'époque, j'étais dans l'intérieur, dans l'Est. Et tout le monde s'intéressait à Nollywood. Donc, sur le marché, on achetait des cassettes. C'était partout.
Et alors, Nollywood, il faut peut-être l'expliquer, ça désigne une façon de fabriquer des films, Alessandro Jedlowski ?
Alors, c'est une question traître, en quelque sorte, dans le sens où, bon, déjà, il y a la partie qui concerne le nom, Nollywood. Alors, il faut savoir que ce terme date de 10 ans après, au moins, l'émergence de ce phénomène. C'est-à-dire que on commence à parler de cette industrie de la home video au Nigeria à partir de la fin des années 80, début 90. On parle souvent du film Living in Bondage, tourné en 92, comme le film fondateur, notamment, en termes commerciaux, mais le terme Nollywood est suggéré, proposé par un journaliste du New York Times qui fait un reportage depuis Lagos et qui veut mettre en évidence ce phénomène en l'inscrivant, disons, dans le cinéma global et à travers cette comparaison implicite avec Hollywood et Bollywood. Donc il y a ce côté-là et il faut quand même souligner que ce terme participe en fait il cache toutes les différences internes à cette industrie. En vérité, Hollywood est fait, le cinéma au Nigeria aujourd'hui est fait de plein d'âmes différentes.
Aujourd'hui, Alessandro Jedlowski, on va en parler, mais à l'époque, c'est encore une façon de faire des films. Même à l'époque, il y a déjà une grande diversité.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a surtout, et c'est, si on étudie cette période-là, c'est intéressant de voir comme depuis très vite, il y a des contestations à ce terme, parce qu'il y a par exemple tout un âme de cette production qui a lieu au nord du Nigeria, à Kanu, qui revendique le terme de Kannywood, et qui, à plein d'égards, est similaire dans l'esprit, dans la dynamique économique, mais qui a touche des histoires, un style, est beaucoup plus influencé par exemple par Bollywood, et qui revendique donc une identité complètement différente. Il y a toute une production en langue Yoruba. Elle aussi, elle demande en fait une reconnaissance différente. Donc en vérité, Nollywood concerne surtout la production qui a lieu dans le sud-ouest en langue anglaise ou pidgin et qui est à cette époque-là surtout animée par l'activité de commerçants d'origine Igbo et donc qui produisent entre Lagos et l'est du pays et qui sont en fait le cerveau économique de cette industrie dans ses premières années, même si en termes d'acteurs, d'histoire, etc., les films touchent et sont beaucoup plus ouverts ethniquement que ce noyau Igbo qui est en charge de l'économie de cette industrie. Et du coup, ce terme est devenu effectivement synonyme d'une manière de faire le cinéma, a été souvent associé, et ça il faut le dire aussi, les producteurs au Nigeria sont pas forcément contents de cette association automatique entre Nollywood et un cinéma fait rapidement, avec des coûts de production très réduits, parce que... En fait, en vérité, au fil de l'histoire de Nollywood, on est désormais à presque à plus de 30 ans d'histoire, il y a eu des périodes très différentes. Donc on peut dire que les tout premières années où il y avait encore un nombre plus limité de films et que les techniciens, par exemple, venaient de l'expérience précédente de la télévision, les films étaient plus cadrés techniquement, de plus haute qualité, on pourrait dire, et aussi avec des budgets plus importants parce que l'économie, étant qu'il y avait moins de compétition, on arrivait à avoir un retour sur investissement plus important. Donc on a des budgets comparativement plus importants à l'époque.
Oui, vous parlez de Living in Bondage, qu'on peut traduire par Vivre dans la servitude, ce film de 1992, de Chris Obirapu et Kenneth Nboué, qui a été tourné, je crois, en 2 semaines avec un budget d'environ 1000 dollars et qui finalement a rapporté 140 000 dollars. Donc il y avait tout de même des films un peu petit budget qui pouvaient rapporter gros.
Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Non, voilà, il y a énormément de nuances. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent sur le fait parce que je sais à quel point les acteurs professionnels de Hollywood y tiennent à avoir cette nuance entre bien sûr de films à plus petit budget et d'autres à plus grand budget. Le film Living in Bondage, c'est intéressant parce que il a pu être tourné avec très peu de moyens parce que c'était aussi un des premiers, mais ce qui est intéressant, il présente quand même des acteurs à la fois devant la caméra et des techniciens derrière la caméra qui ont des expériences importantes. Ce que je voulais souligner, c'est que ces acteurs au fur et à mesure sont un petit peu marginalisés pour tout un tas de raisons et surtout l'industrie se démultiplie. Il y a parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, avec un succès économique pareil, cette histoire de succès circule et plein de gens courent vers l'industrie en voulant faire des films, même s'ils n'ont pas du tout l'expérience, pas du tout les capacités. Donc il y a un effet de saturation et aussi un effet de réputation comme de Hollywood, la get rich quick industry, l'industrie pour faire de l'argent très rapidement. Et du coup, au tournant des années 2000, on assiste à une industrie qui est en phase de pleine saturation parce que dans l'espace de 7 ou 8 ans, on est passé de 2, 3, 10 films en VHS mis sous le marché aux années 80, début années 90, à 2000, 3000 films mis sous le marché au début des années 2000. Donc il y a un effet de saturation qui oblige même ceux qui pourraient investir plus à réduire les investissements parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de retour. Sous l'investissement et du coup il y a une phase disons de aussi de crise en quelque sorte de l'économie d'un point de vue à la fois économique comme esthétique.
Mais cet effet de réputation, pardon de vous couper Alessandro Jodorowsky, dont vous parlez est intéressant et j'aimerais entendre Françoise Ugochukwu sur ce sujet. Il y a une réputation de mauvaise qualité des films de Hollywood qui a la vie dure malgré aujourd'hui effectivement des films qui ont des budgets bien plus importants.
Oui, je pense que il faut dire que moi, étant au Nigeria toutes ces années-là, je pense et je suis pratiquement sûr que cette réputation, elle était due au bavardage des universitaires en fait, parce que les universitaires nigérians étaient profondément choqués de voir la mauvaise qualité technique, en particulier dans le son, le mixage et tout ça de Nollywood. Donc ils ont fait cette réputation. Au début, ils refusaient catégoriquement de parler même de Nollywood, alors que c'était de l'hypocrisie, puisqu'à la maison, tout le monde le regardait. Mais il y a une différence notoire entre ce point de vue qui est parti des universitaires et celui de tout un chacun, y compris de ces gens-là, une fois sortis de leur bureau. En fait, les Nigérians se sont le succès du Nollywood n'avait pratiquement rien à faire avec la qualité technique. Ce qui intéressait les gens, c'était le contenu, c'était les sujets, c'était le fait que c'était un cinéma qui venait de la base, qui représentait la vie quotidienne, qui parlait avec les langues des gens, leur accent, tout ce qui était eux. C'est ça qui a fait le succès.
On se fiche complètement de ce que les gens disent de nous, parce que les Africains voient nos films. Oui, je suis d'accord, on a des progrès à faire sur la qualité, mais on donne du travail aux gens et on offre du divertissement. L'élite des cinéastes africains se plaint, mais même le grand Sam Ben Ousmane, combien d'Africains ont vu ces films ? Les films de Nollywood ont colonisé toute l'Afrique. Nous sommes des hommes d'affaires, on fait des films pour gagner de l'argent et pour pouvoir faire plus de films. Oui, le cinéma est une affaire de passion, mais c'est aussi du business.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Nous continuons à parler de l'économie selon Nollywood, le cinéma nigérian, avec Alessandro Jodorowsky et Françoise Ugochukwu. On vient d'entendre le réalisateur et producteur Mahmoud Ali Balogun sur France Inter en 2007. Nollywood, c'est donc un cinéma commercial qui s'assume comme tel, au moins à ses débuts, Françoise Ugochukwu, et cela malgré les critiques.
Ça, c'était surtout vrai au début, parce que les gens, le tout début, et c'était les cassettes VHS qu'on vendait vides et qu'on a occupées avec des films pour faire plus d'argent. Et Amaka Igwe, la première femme réalisatrice, avait dit ça. Elle a dit, moi, je vends des films comme je vendrais des casseroles. Ça m'avait beaucoup frappé quand je l'avais rencontrée. Mais maintenant, la situation est très, très différente parce que d'abord, je pense que la majorité des réalisateurs et des producteurs se sont rendus compte de l'impact, pas seulement commercial, mais surtout de l'impact général de leurs films. Il faut dire aussi que le piratage a volé leur argent aux producteurs parce que ces films, une fois lâchés dans la nature, étaient revendus, recopiés sans vergogne. Et donc, la majorité des réalisateurs n'ont pas réalisé l'argent qu'ils auraient dû réaliser, puisque la majorité de ces films ne se voient pas dans les grands multiplexes. Mmh. Donc, en fait, l'argent n'est plus le vecteur principal.
Oui, ce cinéma, en effet, a été largement piraté, l'est sans doute encore beaucoup, mais cela a eu un avantage, Alessandro Jedlowski, celui de permettre une diffusion très large de ces films.
Bah, tout à fait, ça a été à plein d'égards un multiplicateur et ça aussi pas mal de gens en Nigeria le reconnaissent, c'est-à-dire que notamment au fil des années 90 c'est aussi pas seulement mais aussi grâce à la piraterie que Nollywood s'est fait connaître un peu à l'échelle panafricaine et puis énormément dans la diaspora. Une petite note quand même est importante à faire, je pense, parce que moi, pendant le début, enfin les premières années de ma recherche, j'étais assez convaincu que justement la circulation transnationale de Nollywood s'était faite surtout à travers la piraterie pendant ces premières années. Et j'ai compris par la suite, à travers des entretiens et notamment aussi des visites à ces lieux, les marchés, les grands marchés comme Alaba ou les marketers, donc les vendeurs d'électronique travaillent, que ce marché même international était très structuré. Et donc, par exemple, au fil des années 90, il y avait une distribution aussi tout à fait formalisée, entre guillemets, illicite, faite et organisée par les marketers, sur des lieux spécifiques, par exemple, un lien direct avec Londres, avec le marché de Peckham, plutôt qu'avec le Bronx à New York. Et donc là, il y avait des lignes directes, et puis aussi une division interne aux marketers entre les aires linguistiques différentes. Donc par exemple, il y avait des marketers spécialisés sur l'Afrique francophone qui rachetaient du coup les droits sur des films anglophones pour en faire le doublage et les faire circuler en Afrique francophone. Donc tout ça, il y avait une forme d'organisation qui est à cheval entre formalité et informalité. C'est difficile de la définir. C'est informel dans le sens où c'était sous le radar du système fiscal nigérian, mais très formalisé dans le sens de sa structure. Et sauf qu'après, ça a été balayé, ce système, ensuite par le changement technologique et le passage notamment aux grands radiodiffuseurs, les télévisions satellitaires, les streamers, les grandes compagnies internationales qui à la fois ignoraient ce système ou n'avaient pas de grand intérêt à le connaître et qui ont éventuellement on peut monopoliser la circulation internationale. Et pour revenir à cette période avant, donc il y avait bien sûr donc cette partie plus formalisée et puis à côté de ça, bien sûr, la piraterie qui a fait arriver quand même ce film de manière plus capillaire, en cœur, jusqu'au fin fond des villages de Tanzanie, de Zambie ou de Congo. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est la relation entre une partie formelle et une autre partie informelle de cette distribution qui a permis à ces films de circuler vraiment massivement et s'affirmer comme une nouvelle forme de culture panafricaine. Il y a un auteur qui est Françoise comme moi. Nous connaissons John McCall qui a parlé il y a plusieurs années de Nollywood comme la seule forme de panafricanisme dont nous disposons, dans le sens où, contrairement au panafricanisme intellectuel des années 50, 60, celui-ci, c'est un panafricanisme par le bas qui s'est construit à travers tout un tas de référents culturels communs dans la manière de parler, par exemple, dans la manière de s'habiller, dans la manière de représenter les relations familiales et tout ça.
Et on va voir effectivement comment ce cinéma nigérian nous parle du Nigeria et nous raconte le Nigeria contemporain. Mais d'abord, parmi les premiers films à succès de Nollywood, on peut citer Le Club des milliardaires du réalisateur nigérian nigérian Afam Okereke, sorti en 1999. Voici un extrait de sa bande originale. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous continuons à parler de l'économie selon le cinéma nigérian de Nollywood. Alessandro Jedlowski et Françoise Ogochukwu sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec l'aide d'Inès Barja et mise en onde aujourd'hui par Dali Yaha. Alors dans quelle mesure l'industrie cinématographique nigériane a-t-elle contribué au décollage économique du pays depuis les années 2000, puisqu'il faut rappeler, Alessandro Jedlowski, que le Nigeria est devenu la première économie africaine en dépassant l'Afrique du Sud en 2014.
Tout à fait, c'est justement, c'est une donnée très intéressante, notamment cette date, parce que à l'époque, les médias ont beaucoup insisté sur ça, en soulignant justement que ce dépassement, donc le Nigeria est devenu première économie africaine, s'était opéré précisément parce que l'Office national des statistiques avait inclus pour la première fois les industries culturelles et créatives dans son calcul. Et
ce qui permettait de gagner quelques points de PIB.
Voilà, exactement. Alors, après, il faut quand même souligner que la question des chiffres par rapport à cette industrie reste très, très compliquée, dans le sens où, pendant très longtemps, ça a été une industrie largement informelle, disons, qui a occupé un espace principalement informel de l'économie. Et même aujourd'hui, la partie, disons, émergée de cette économie, et peut-être ça occupe qu'une minorité, disons, de la taille générale totale de l'économie de Nollywood. Donc, il est très difficile de mesurer réellement son impact, le nombre de personnes qui sont employées par cette industrie, ses revenus et tout ça. Toutefois, ce monde et le monde en général a besoin de chiffres. Les bailleurs internationaux cherchent tout le temps des chiffres. Et on est dans une situation, quand on étudie ces phénomènes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont produits sans forcément respecter les aspects les plus scientifiques de processus.
Par exemple, mais, on voit beaucoup passer cette information selon laquelle ce serait une industrie qui serait le deuxième employeur du Nigeria derrière le secteur agricole. Il faut peut-être prendre cette information avec des pincettes, Alessandro Jedlowski.
Voilà, c'est personnellement, j'ai jamais trouvé aucune chiffre solide pour confirmer ce type d'information. Par contre, je veux pas en disant cela réduire l'importance de cette industrie ni son impact. C'est tout à fait possible qu'elle soit justement la deuxième employeur. Mm-hmm. On n'a juste pas vraiment des chiffres fiables pour l'affirmer.
Françoise Ogochukwu.
Oui. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que, comme le dit Alessandro, il n'y a pas de chiffres fiables. Et beaucoup de gens en France, par exemple, s'en étonnent. Mais la raison, c'est que la majorité de ces films ne sont pas vus dans des multiplexes. Il n'y a pas de billets de cinéma dans tout le pays. Et j'ai récemment lu que 95% de la population regarde aujourd'hui les films en streaming sur leur portable. Et donc, tout ça rend les statistiques assez difficiles. La complexité des ventes des films également. Donc, je pense que ça, c'est un point. Par contre, c'est je suis bien sûr que Nollywood est en effet le second employeur du pays, hein, puisque non seulement pour l'économie, les ventes, mais aussi en termes d'emploi, puisque des millions probablement de Nigérians aujourd'hui sont occupés soit comme acteurs et actrices, soit comme métiers liés au film, costumiers, techniciens, etc. Donc tout ça, c'est très très important et la porte est grande ouverte. Il n'y a pas de numerus clausus pour les emplois.
Mais les opportunités sont immenses, puisqu'il faut rappeler que c'est un pays de plus de 200 millions d'habitants, donc il y a un marché intérieur conséquent, et les cinémas multiplex se sont multipliés dans le pays, Alessandro Jeglovski. Donc il y a quand même eu une hausse des bénéfices par ce biais-là.
Oui, tout à fait. Ça reste, comment dire, si on pense à la taille justement du pays, 200 millions d'habitants, je pense qu'il y a peut-être un total de 150 écrans, je sais pas quoi. Vous voyez bien que la proportion est moindre, mais ça n'empêche que le retour de la salle de cinéma, même si sur un format très différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a surtout des multiplexes, il y a plus les salles mono-écran de quartier, donc il y a surtout des multiplexes donc qui se orientent surtout vers un public plutôt d'élite, mais ça reste quand même un phénomène très important parce que c'est quand même un système formalisé qui permet de produire des chiffres, même si elles concernent une niche en quelque sorte de marché général de Nollywood. Et les acteurs principaux, les acteurs économiques principaux de ce nouveau marché des salles de cinéma ont beaucoup joué sur cette question de chiffres pour essayer d'attirer de nouveaux bailleurs, de nouveaux investissements envers l'industrie. Ça suffit de souligner par exemple l'expérience de Film House, c'est une chaîne de cinéma surtout active dans le sud-ouest et qui a peut-être, si je me trompe pas, c'est la chaîne qui contrôle le plus large nombre de salles. Et eux, grâce justement à ce système plus formalisé qui leur permet de dire combien d'entrées a fait un certain film, combien de temps il restait en salle, quelles recettes et tout ça, ils sont devenus en fait des intermédiaires fondamentaux dans le contact entre l'industrie et Netflix par exemple. C'est Film House qui fait l'agrégation des contenus, ou en tout cas la grosse partie de l'agrégation de contenus pour Netflix. Ils sont aussi les interlocuteurs principaux de tout un tas d'autres acteurs économiques parce que ils ont réussi à afficher leur transparence, ce qui était, et ça a toujours été un gros problème de l'économie de Nollywood, notamment pour les acteurs économiques venant de l'extérieur, comme elle a toujours été vue comme une industrie impénétrable, difficile à comprendre et en manque radical de transparence parce que les marketeurs jouaient justement sous les chiffres pour éviter de se faire trop taxer, pour ne pas trop montrer leur richesse le cas échéant, ou plutôt pour multiplier la réputation d'un film même lorsqu'il n'avait pas eu vraiment un succès. Donc
oui, Netflix là-dedans est devenu un acteur très important. On va revenir sur ce point. Mais tout à l'heure, vous nous avez dit, François Sokochukwu, que les universitaires nigérians critiquaient assez sévèrement ce cinéma émergent dans les années 90. Du côté des autorités nigérianes, c'était plutôt l'indifférence qui prévalait au départ. Et puis, peut-être que ces autorités ont commencé à s'intéresser à ce cinéma à partir du moment où elles ont vu qu'il était pourvoyeur d'emplois et de revenus.
On peut dire ça, oui. Je pense que à l'origine, étant donné qu'il y a quand même un lien important entre les universités et le gouvernement, que ça soit positif ou négatif, le gouvernement fédéral s'est peu intéressé au départ à Nollywood. Ensuite, on a eu avec Jonathan, le président Jonathan, un gros intérêt. Donc, il y a eu des rencontres organisées à Abuja. Il avait parlé, entre autres, à Makaigwe à l'époque et d'autres. Et donc, il a essayé de vraiment développer Nollywood. Mais on peut dire que l'avènement des... Puisque les gouvernements au Nigeria alternent entre sudistes et nordistes. Depuis, après Jonathan, donc le gouvernement actuel qui s'est répété, n'est pas intéressé. En fait, il a beaucoup... contribuer aux difficultés de Kannywood au nord, puisque on a commencé à interdire, donc on a appliqué la charia à Hollywood, ce qui a beaucoup causé de troubles, disons, à Cannywood. Et le gouvernement, dans le même temps, ne s'est pas autant intéressé qu'avant à Hollywood. Je pense qu'il le voit comme une industrie décadente du point de vue du contenu, même si ça assure une grande richesse.
Et oui, parce qu'on va voir que c'est un cinéma qui est très critique par rapport à un certain nombre de fléaux de ce pays, comme la corruption ou comme les violences policières. J'aimerais vous faire entendre la scénariste d'Ami Elébé dans le documentaire d'Arte, toujours avec Nollywood, le Nigeria, fait son cinéma.
Lagos est tellement bouillonnante, c'est notre New York, notre Londres. Si vous essayez de dépeindre la modernité, la jeunesse, l'énergie et la vibe de la ville, c'est tellement bien de tourner ici. Quand on regarde les films de Nollywood, on a vraiment un aperçu de ce qu'est cette ville. Les quartiers élégants, les zones modernes ou plus rurales, la vie des voyous, tout est réuni ici. Quelles que soient les histoires, on doit en être fier, parce que Nollywood dépeint le Nigeria tel qu'il est. Je n'ai jamais vu un film de Nollywood dans lequel je ne retrouvais pas un peu de moi en tant que Nigériane.
Alessandro Jedlowski, c'est dans les années 2000 que ces films ont commencé à s'exporter. Nollywood s'est diffusé à travers le monde grâce à la diaspora nigériane en particulier.
Oui, c'est sûr que la diaspora a joué un rôle fondamental, un peu de pont en quelque sorte. Les films ont voyagé d'abord, je dirais, dans les valises des migrants. Et même, on pourrait dire, en vérité, déjà dans les années 90, on a des traces de succès de certains films à Londres ou ailleurs, déjà à la moitié des années 90. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, la migration et l'étranger, notamment l'étranger occidental, a attiré ces films déjà depuis le début de l'histoire de Nollywood, c'est-à-dire qu'un des premiers grands classiques, le deuxième volet de film Glamour Girls, un film sur la traite, sur la prostitution, qui est un gros problème social au Nigeria, a comme sous-titre The Italian Connection, parce que c'est un film qui, à l'époque notamment, mais c'est encore le cas aujourd'hui, la traite nigériane de femmes s'oriente beaucoup vers l'Italie et les pays de la Méditerranée, et puis c'est désormais tout à fait un phénomène qui intéresse la France aussi, plutôt que l'Allemagne et la Belgique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce cinéma, à son tour déjà, produisait un imaginaire ou une discussion des questions qui concernaient la mobilité internationale des Nigérians. Et donc la diaspora a joué un rôle fondamental à la fois dans les circuits et dans l'imaginaire de cette industrie. Et puis bien sûr, comme je le disais avant, si au départ c'était un commerce un petit peu informel, comme ça après ça a été en partie repris par une formalisation sous le contrôle des marketers. Mais aussi, c'est important à dire que la diaspora, au fur et à mesure, s'est sentie concernée aussi parce que elle était plus exposée à ces critiques, notamment de Nollywood comme un cinéma de deuxième catégorie. Et donc, on voit à partir des années 2000 de plus en plus de réalisateurs nigérians qui émergent dans la diaspora et qui font leur retour au Nigeria pour s'investir dans l'industrie avec l'idée de produire des films de plus haute qualité, si vous voulez.
Donc une diaspora qui contribue à diffuser ces films, et dans le même temps, effectivement, on voit que cette question de la migration est centrale dans le cinéma nigérian. Françoise Ogochoko.
Oui, tout à fait. La migration, c'est très vite, a très vite pénétré ce cinéma. D'abord, dans les premiers films, on voyait la migration sous forme de mobilier importé. Ensuite, ça s'est arrivé dans la façon de s'habiller. Donc, les vêtements qui traduisait en particulier chez les jeunes l'influence de l'étranger, donc les jeans, le refus des vêtements traditionnels. Et puis ensuite, on a eu donc la présentation de ceux qui étaient allés chercher, comme on appelle, la toison d'or, et qui revenaient après des études et le succès dans les études. Et puis les gens ont commencé à migrer pour d'autres raisons et aujourd'hui la diaspora tient une place de plus en plus importante à Hollywood, pas seulement dans les pays traditionnels de migration comme la Grande-Bretagne, l'Angleterre en particulier et puis les États-Unis, mais aussi beaucoup d'autres pays comme l'Ukraine, la Norvège, l'Italie bien sûr, l'Espagne, la Belgique et d'autres pays. En fait, ça va de plus en plus loin. Il y a aussi eu des films faits produits en Inde. Et également, la diaspora a permis de nombreuses coproductions, comme par exemple le film qui s'appelle des Lost Café, donc qui se passe en Norvège, et c'est une histoire de migration d'une jeune fille, ce qui est assez rare. Généralement, c'était plus des hommes à Hollywood d'abord. Donc, ces coproductions ont permis de plus gros budgets, même si le budget est et Mélanie l'a dit il y a deux ans en discutant avec moi, comme c'est en fait le budget est surtout soutenu par les mécènes nigérians. Mais les coproductions ont permis d'autres sources d'argent et donc ça a aussi intéressé, contribué à attirer l'attention de publics qui n'étaient pas nigérians.
Et oui, le fait de pouvoir, par exemple, s'associer à Netflix pour les producteurs, c'est à double tranchant. Alessandro Jedlowski, d'un côté, cela permet d'augmenter les budgets, mais de l'autre, cela oblige les réalisateurs à standardiser leur production, leur réalisation.
C'est un sujet de débat important au sein de l'industrie, c'est-à-dire il y a un accord général pour et reconnaître que le succès de Nollywood s'est fait grâce au public nigérian d'abord, c'est-à-dire que et aussi peut-être c'est la grande différence de Nollywood, notamment dans ses premières années, par rapport à ce qu'on connaissait comme le grand cinéma africain d'auteur, le cinéma notamment financé surtout par la coopération internationale, la francophonie et tout ça.
Oui, le réalisateur sénégalais Sambène Ousmane a été cité.
Exactement.
Tout à l'heure.
Tout à fait. Alors, ce cinéma-là a été parfois critiqué comme un cinéma d'ambassade ou un cinéma de festivals internationaux, c'est-à-dire un très beau cinéma, très important intellectuellement, artistiquement, mais qui a eu du mal à circuler localement, plutôt circuler internationalement. Et tandis qu'en Hollywood, depuis tout de suite, en raison aussi de sa structure économique et de l'implication d'acteurs économiques locaux, c'est basé surtout sur ce lien très fort avec un public local. Et au fur et à mesure de son évolution, en fait, en tout cas, une partie de cette industrie semblerait s'être détachée pour s'intéresser plus aux élites et aux diasporas, puisque c'est ces marchés-là qui sont plus formalisés, qui garantissent des retours un peu plus stables. Mais cela a amené certains à critiquer l'industrie comme elle avait perdu de vue son lien intime avec les préoccupations des classes les moins aisées du Nigeria. Donc on voit aujourd'hui un cinéma pour certains égards, notamment le Nollywood qui circule plutôt sur Netflix ou Amazon, etc., comme un Nollywood qui est à la fois produit de plus en plus par des élites et qui est vu aussi plutôt par des élites. Il ne faut pas oublier que Netflix reste difficilement accessible au Nigeria. Il y a quand même une portion importante je crois que c'est environ 1 million d'inscriptions, mais sur un pays de 200 millions d'habitants, vous voyez bien que c'est assez limité comparé à d'autres formes de circulation.
Et donc la population nigérienne a accès à ces films plutôt sur YouTube, par exemple, sauf que c'est plus difficile de monétiser ces films sur la plateforme YouTube, Alessandro Jedlowski.
Exactement, et puis surtout, c'est d'autres films. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de l'évolution de la circulation fait que à la fois l'industrie s'est stratifiée, il y a une partie de l'industrie qui s'oriente vers des élites parce qu'il y a des circuits de circulation qui s'orientent vers ces élites et qui permettent de monétariser. Et puis au fur et à mesure qu'on descend à l'échelle, on a des autres films qui sont faits avec moins de moyens puisqu'ils circulent sur des plateformes par exemple comme YouTube qui ne permettent pas de monétariser aussi bien. Et donc, mais ça fait qu'en fait, ce qui était la capacité du premier Nollywood de construire un espace commun qui intégrait à la fois les élites et les classes les moins aisées de la société nigérienne autour de même contenu. Aujourd'hui, on pourrait plutôt parler d'un espace public fragmenté dans lequel il y a des films qui circulent parmi les élites et suscitent éventuellement des débats.
Alors sur Netflix, justement, on peut trouver la série Yoruba Ololade, extrait.
Vous savez, pasteur, depuis un moment, je ne vois aucune évolution. Et même au travail, je n'ai pas de promotion. Mmh. Et aussi, à la maison, ma femme fait comme bon lui semble. parce qu'elle gagne plus que moi. Je n'en peux plus. J'ai besoin de votre aide.
Tu es venu avec les 50 000 Naira?
Oui, je les ai.
Père, je te confie la vie de ton fils.
Amen.
Ses finances.
Amen.
Son mariage.
Amen.
Et sa santé.
Amen.
Bénis le Père.
Amen.
Bénis ses finances.
Amen.
Toi qui appartiens l'or,
amen,
l'argent et
amen,
tous les biens.
Amen.
Accepte nos prières, oh, car nous avons prié.
Amen.
En ton nom puissant,
amen,
papa. Amen.
Amen.
Le Seigneur a
amen
agi. Il est vivant.
Amen.
Le Seigneur a agi.
Amen.
Il est vivant.
Amen.
Allez, lève-toi.
Merci,
c'est
pasteur
accompli. Tes problèmes
merci
sont réglés.
Amen.
Et écoute bien, Dieu m'a révélé que d'ici 7 jours, mon enfant, tu auras une bonne nouvelle.
7 jours, c'est ça?
Effectivement. Mais attention,
oui, pasteur,
quand tu manifesteras la grâce du Seigneur, tu devras retourner dans sa maison, c'est-à-dire ici, pour payer la dîme qui est sa part, ok?
C'est compris.
C'est important.
C'est bien compris.
Françoise Ogochoko, vous l'avez dit, la recette du succès de Nollywood, c'est sa capacité à raconter le Nigeria contemporain, notamment peut-être une certaine obsession pour la réussite matérielle, l'argent facile, comme on pouvait l'entendre dans cet extrait.
Oui, il y a énormément de films qui traitent cette histoire, puisque Nollywood, c'est du loisir. Donc, c'est éducation par le loisir. Et ça, c'est ancré dans la... dans la psyché nigériane, tous les gens veulent être enseignés et la moralité est très importante. Donc, on voit dans ces films, même ceux qui sont tout à fait en dehors des églises, cette influence de la critique de l'argent facile. On a vu ça dès le tout début. Mais ce qui est intéressant, c'est que le côté religieux des films est toujours là. Il y a bien sûr des films qui sont produits par des églises, en particulier chez les Yoruba. Mais tous les films présentent d'une manière ou d'une autre un côté religieux, que ce soit la religion traditionnelle, qui est souvent énormément critiquée dans les films, que ce soit le christianisme, que ce soit dans le christianisme, les protestants d'abord, et puis plus récemment, on a vu donc les catholiques se rentrer là, et ça c'est la corruption à l'intérieur de l'Église qui a été traitée par d'autres films comme The Fake Prophet et beaucoup d'autres films de ce genre. Et c'est quelque chose qui choque les gens, mais en même temps qui fait partie de la réalité quotidienne.
Et ce que Nollywood met aussi à l'écran, c'est la modernité urbaine, notamment la ville d'Abuja, qui est cette nouvelle capitale depuis 1991, qui est sortie de terre dans le centre du pays. Elle est le décor de nombreux films, Françoise Ogochoko.
Oui, mais pas seulement. Donc en fait, on a un décor qui est en diptyque. On voit d'un côté le village ancestral, synonyme qui est très ambivalent en fait dans sa présentation, qui est à la fois pauvre, synonyme de chômage, de retardement, et puis en même temps le cœur, là où on a enterré le cordon ombilical des enfants et dans l'espoir qu'ils vont revenir. C'était le sujet d'ailleurs du premier roman Ibo que j'avais traduit, Omenuko, qui raconte cette histoire de migration et remigration. Mais de l'autre côté, on a la ville qui a toujours été présentée comme l'espoir de trouver du travail, de décoller, d'atteindre la modernité, de ne plus rester collé au village, mais d'un autre côté, une ville de tous les dangers, la ville des prostituées, la ville où on est seul, déconnecté du village, la ville où on rencontre des gens qu'on ne connaît pas parce qu'ils appartiennent à d'autres cultures. Mais en ce qui concerne la ville, ça a été longtemps uniquement Lagos, la grande ville. Mais aujourd'hui, bien sûr, on a des films qui montrent Abuja. Par exemple, il y a un film qui s'appelle The Meeting, qui critique la bureaucratie au plus haut niveau et qui se passe tout à Abuja, avec de nombreuses scènes où on voit les grands bâtiments de la ville, et qui est vraiment touristique de ce point de vue-là. Mais la ville est aussi donc un endroit d'affluence. Donc, en fait, il y a aujourd'hui des Nigérians qui sont millionnaires et qui construisent des propriétés magnifiques dans le but exclusif de les louer aux producteurs. Ce qui permet de voir dans ces films toutes ces grandes maisons avec du mobilier ultra chic. Donc ça, c'est la vitrine de la ville.
Une opulence, une richesse qui apparaît à l'écran, mais aussi la misère urbaine, Françoise Ogochoko.
Oui, et puis, bien sûr, la ville, c'est aussi les gangs. Et donc, ça, c'est un grand aspect de la ville, c'est la violence. et la violence, et puis aussi la misère, parce que par exemple, de nombreux films montrent Lagos, pas seulement les grandes maisons, mais juste à côté, des maisons qui sont des taudis, et aussi bien sûr des bidonvilles, parce que ça existe, en particulier à Makoko. Donc ça, c'est la ville, et c'est pour ça que beaucoup de ces maisons, comme on le voit dans les films, et là, ça c'est la réalité, sont entourées de très hauts murs, et avec des grilles et des portails gigantesques pour protéger la maison des attaques.
La violence urbaine qui est au cœur de l'un des tout derniers films de Nollywood, The Black Book d'Edie T. F. Young, qui est sorti l'an dernier. Le professeur Tela Craig, joué par Bimbo Akintola, dirige la société nigériane d'énergie et de pétrole. Mais un jour, son mari et son fils sont enlevés et bientôt les ravisseurs lui annoncent qu'ils ont tué son mari. Elle se confie alors à une journaliste d'investigation bien décidée à faire la lumière sur cette affaire.
Ils m'ont dit, va-t'en. J'ai cru qu'ils épargneraient la vie de mon mari si je le faisais. Mais ils l'ont quand même tué. Alors j'ai commencé à réfléchir, à me demander qui voulait que je parte. Les menaces ont commencé quand j'ai décidé de travailler sur les dossiers de ces sites pétroliers. J'ai lutté toute ma vie contre la corruption. Je me suis battue, j'ai perdu tout ce que j'avais. Vous devez les arrêter. Ne les laissez surtout pas s'échapper.
Je suis vraiment désolée.
François Sogochuku, le cinéma de Nollywood permet aussi de dénoncer la corruption des élites et les violences policières qui sont de grands fléaux du Nigeria.
Oui, ce qui est intéressant du point de vue de la police, c'est que on a cette critique, a été adressée non seulement par des films qui sont, comme la majorité des films nigérians, des drames assez sombres, mais aussi en fait par des films comiques où on montre la corruption de la police sous un comme ridicule. Oui. Bien sûr, la critique de la corruption dans la police est très importante. Par contre, l'armée a été présenté de manière plus prudente. Et ça, c'est tout un pan de l'histoire du Nigeria et de Nollywood qui est un peu caché quelquefois. C'est que au début des années 2000, la politique et la politique fédérale et l'histoire contemporaine étaient un peu effacées parce que c'était dangereux. Donc les films avaient commencé par parler de la famille, l'exode rural, puis la migration, et c'est seulement plus récemment qu'on a vu, donc à partir des années 2000, donc ça fait une vingtaine d'années maintenant, que petit à petit les films tentent d'adresser le problème du gouvernement. Il y a un film qui s'appelle October One qui parle des élections, qui montre la violence, la corruption. Mais il ne faut jamais oublier que ces films, surtout aujourd'hui, ne peuvent pas échapper à la censure. Donc il y a un bureau de censure qui décide quels films seront vus ou non, quels films seront projetés. Parce que, par exemple, l'adaptation cinématographique du film La moitié du soleil jaune là, de
Chimamanda Ngozi Adichie.
Chimamanda Adichie, oui. Ils ont attendu plus de 6 mois et ils ont dû édulcorer le film pour pouvoir le passer finalement parce que ça posait un problème au départ.
Qui porte sur la guerre du Biafra.
Oui, c'est ça. Le gouvernement fédéral était tout à fait hostile à toute suggestion concernant les pogroms parce que c'est vrai que ça existe encore. C'est plus, même la guerre du Biafra, c'est fini, mais il y a toujours des pogroms du Nigeria, ça continue. Et aujourd'hui, bien sûr, on a le problème Fulani, généralement, le djihad. Donc, tout ça, ça pénètre progressivement dans les films, mais avec beaucoup de tact, avec beaucoup de prudence, pour que les films ne puissent être projetés. Parce qu'au départ, probablement plus de la moitié des films échappaient à cette censure. Mais aujourd'hui, on ne peut plus produire sans passer son film à travers le tamis.
This is VJ Emmy, live in the studios from Wakariot, Uganda.
France Culture.
Yeah, 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 okay.
Entendez-vous l'écho ?
He's dead.
This is how we do action in Uganda.
Tiffaine de Roquigny.
Ce que vous venez d'entendre, c'est Wakaliwood, le cinéma ougandais. On peut dire, Alessandro Jedlowski, que le cinéma nigérien a inspiré d'autres pays africains, justement, comme l'Ouganda.
Oui, tout à fait. L'histoire de succès, disons, de Nollywood a été très important comme exemple pour plein d'autres pays. Après, c'est plus difficile de dire qu'il y a eu une influence directe d'un point de vue, mettons, de style des films, etc. Ça dépend beaucoup plus de pays en pays, mais ce qui a vraiment touché l'imaginaire, notamment des gens qui travaillent dans le monde de la culture, c'était de voir qu'il était possible de créer une industrie avec des moyens et une économie africaine et une industrie de la culture et des médias et d'avoir ce succès international. Donc on a vu des industries de différents types et des natures principalement commerciales émerger au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en Éthiopie, même au Zimbabwe. Il y a le cas du Ghana qui est très intéressant parce qu'en vérité c'est ce phénomène des films commerciaux avait commencé avant Nollywood, mais le succès de Nollywood après effacé un petit peu cette histoire, mais et par la suite le Ghana aussi a développé une industrie très importante. Donc voilà. Et dans le monde francophone, un équivalent peut être celui de la Côte d'Ivoire avec toute l'évolution du phénomène des séries télé, qui a à certains égards bien sûr différent, mais qui se branche un petit peu et à cette idée de la possibilité d'une existence d'un cinéma commercial africain à succès.
François Ogwuchukwu, un mot de conclusion peut-être sur ce cinéma nigérian parti à la conquête du monde.
Ce qui vient d'être mentionné, c'est très vrai et ça nous amène à découvrir ou redécouvrir le fait que au Nigeria et en particulier à Nollywood, il n'y a pas de cloison étanche entre la télévision, le cinéma, le portable. Tous les moyens sont bons pour faire des films. On fait aujourd'hui, Mélanie a fait un film, Hat to Hat, sur son portable. Et les gens maintenant, non seulement font des films sur leur portable, mais les circulent également de la même manière. Et pratiquement tous les réalisateurs aujourd'hui ont commencé par travailler avec la télévision. Et il y en a qui passent leur temps entre les séries télé et les films longs métrages ou courts métrages. Donc on ne peut pas décider que tel écran est moins bien que l'autre ou plus. Donc en fait, c'est un cinéma très très flexible et ça, c'est une des raisons de son succès.
Merci beaucoup François Ogwuchukwu et Alessandro Jedlowski de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage François Ogwuchukwu, c'est Nollywood, le cinéma nigérian 1991-2021. Il est paru chez L'Harmattan. Un immense merci à tous les deux. Merci beaucoup également à Jean-François Cousson de France Bleu Gironde qui a assuré ce duplex. La fin d'Entendez-vous l'écho, on se quitte avec une chanson du musicien anglais d'origine nigériane Dele Sosimi avec The Estuary 21 et Get Cape, Wear Cape, Fly. Demain, spécial 8 mars, Aliette Ovine recevra l'économiste Anne Boring, les sociologues Safia Doumenk, Sophie Pochik et Eve Meuret-Canfort pour parler de l'intérêt, de la défense des intérêts des femmes dans le monde du travail. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, on vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.